pour la reine, le négrillon. Depuis 2 mois déjà, après les chants d'église et les discours d'usage, ce bon monsieur de Cantecourlu dormait de l'éternel sommeil sous une dalle armoriée au fond de la chapelle pseudo-gothique où ses ancêtres l'avaient 70 ans attendu quand la dame de Cantecourlu, toutes choses ainsi réglées envers la dépouille corporelle du défunt, songea soudain à s'inquiéter de ce qu'était devenu son âme. Accomplissons encore ce dernier devoir, et puis, la conscience en repos, je pourrai exercer, aussi longtemps que le permettra ma douleur, l'aimable état de jeune veuve. Plus légère et réconfortée, la dame de Cantecourlu, charmante dans ses voiles noires, monta donc un matin jusqu'à un rustique ermitage, pas très éloigné du château, avec la louable pensée de consulter l'ermite et de faire dire par son entremise à l'intention de Cantecourlu autant de messes basses ou chantées qu'en exigerait la circonstance. L'ermite, bon vieillard à barbe vénérable, mais dont l'œil jovial, brillant, parmi les rides et comme perpétuellement plissé par un petit rire intérieur, semblait vouloir rassurer les gens que la majesté décorative de sa barbe aurait pu trop impressionner, s'étonna bien un peu de voir, au bout de 2 longs mois, la belle à ce point désolée. « Hélas ! » soupirait-elle, « rassurez-moi, l'incertitude m'est cruelle, et je voudrais savoir heureux. » Par-delà la tombe, celui dont le bonheur, pendant tout le temps qu'il vécut, faisait mon unique souci. Cantecourlu, certes, avait ses défauts. Je l'ai connu mieux que personne. Mais sa fin fut édifiante. Et sans doute le paradis... Doucement, doucement, madame. La noblesse ne doute de rien. Quoi, le paradis tout de go? Par malheur, les élus sont rares qui ont le privilège d'y monter droit. Et Saint-Pierre, pour accommodant qu'on le dise, ne décroche pas si aisément les 3 clés pendues à sa ceinture. Et Dieu, Cantecourlu serait-il en enfer? Non, l'enfer ouvre rarement, la suprême bonté ne damne que les grands coupables. Cantecourlu pécha, mais pécha surtout par bêtise. Cantecourlu n'est pas en enfer. Il serait donc au purgatoire? « Non plus, madame, » répondit l'ermite tout en caressant sa barbe, tandis que son œil s'illuminait d'un rire devenu malicieux. « Mais alors, je ne comprends pas. » « Vous devriez comprendre, pourtant. Avec son billet de purgatoire, dûment timbré et paraffé, il rôde dans les corridors. Depuis 2 bons mois, le pauvre homme. »« Depuis 2 mois ? Et qu'attend-il ? » Au purgatoire, la porte est basse. Les architectes n'avaient pas prévu son cas. Et par Dieu, s'il faut tout vous dire, votre mari, madame, attend simplement, pour entrer, qu'on vienne lui scier les cornes. En effet, paraît-il, madame de Cantecourlu fut réellement l'héroïne de cette aventure, plus tard devenue légendaire, et que mon ami, aimable Richier, le poète de la Coucourde, à quelques part mise en vers provençaux. Je ne l'ai d'ailleurs rappelé que pour vous faire connaître d'un trait, sans préparation ni vaine phrase, l'intime psychologie de la baronne de Cantecourlu, ses sentiments d'épouse envers le baron, et rendre tout de suite vraisemblable ce qui me reste à raconter, touchant ce ménage modèle. Le baron de Cantecourlu n'a pas vécu, comme on pourrait le supposer, dans le ténébreux Moyen-Âge. Il fut notre contemporain, Clarescombe, agréable bourgade où les Cantecourlu avaient leur hôtel qu'ils habitaient l'hiver, se le rappelle encore trottant d'un pas menu le long des rues et des ruelles, invariablement suivi par madame de Cantecourlu, personne appétissante et fraîche, plus jeune que lui de 30 ans, laquelle, à son tour, était suivie par une kyrielle d'enfants de sexe et de taille variée. On ne sut jamais bien le nombre des enfants de Cante Courlu. Lui-même parfois s'y perdait. Les uns avaient déjà du poil volé au menton, quand les autres sortaient à peine de nourrice. Et madame de Cante Courlu, ne s'arrêtant pas d'être mère, Clarisse Combes, si l'aveugle Parc ne s'en fût mêlé, aurait fini par posséder dans ses murs une nouvelle famille gigogne. Tous ses enfants, on le devine, ne ressemblaient pas au baron. Aucun même, à vrai dire, ne lui ressemblait. Mais sans prêter attention aux petites médisances locales qui, perfidement, constataient chez l'un, avec date précise à l'appui, le ton de cheveux blonds dorés d'un irrésistible capitaine et chez l'autre la toison d'ébène d'un galant garde-général, le bon monsieur de Cante Courlu, les enveloppant d'un même amour, se réjouissait au contraire de cette diversité dans leur visage, preuve indéniable et vivante de ses théories préférées. « La belle malice, disait-il, que d'avoir les traits de son père. Bon, cela pour les gens du commun. Chez les gens de race comme nous, c'est l'aïeul, c'est le trisaïeul que la physionomie rappelle. » Il faut savoir que le baron de Cante Courlu, vrai gentilhomme d'autrefois, égaré dans notre siècle maussade, joignait à une philosophie de bon goût, en fait de questions conjugales, un vif amour de la science. D'Holbach se serait plu dans sa compagnie, et le marquis d'Argens eût été son ami. Anthropologiste passionné, expert mesurateur de crâne et capable d'en remontrer pour la dolichocéphalie ou la brachycéphalie de quiconque, même un chapelier armé de son conformateur, le baron, auteur d'un mémoire couronné par plusieurs académies sur la transmission ancestrale et les bizarreries du sceau atavique, n'avait pas de plus grande joie à chaque nouveau rejeton dont le gratifiait l'infatigable baron de Cante Courlu que de rechercher sa ressemblance avec un des innombrables portraits de famille qui sont assis dans le grenier qu'il appelait « ma galerie ». Or, cette ressemblance, il finissait toujours par la trouver, faisant remarquer, en dépit des malins sourires, combien Yves, par exemple, reproduisait tout craché son arrière-grand-oncle, le commandeur de Malte, et combien le profil de Guy était visiblement le même que celui d'un Cante Courlu, décapité sous Richelieu. Une fois pourtant, sa confiance se trouva ébranlée lorsque la baronne, sans paraître s'en étonner autrement, mit au monde un adorable négrillon crépu, lequel, avec son petit corps mignon, mais musclé déjà, représentait assez bien, parmi les blancheurs du berceau, l'Hercule enfant des bronzes grecs. « Et quoi ?» songeait tristement le baron. « Un Cante Courlu moricaud ? Voilà qui dérange ma thèse. Nous n'eûmes jamais d'aïeul nègre. D'où peut venir ce paradoxal Cante Courlu ?» D'ailleurs, pas un instant, l'excellent homme ne pensa, certes, à suspecter la fidélité de la baronne. Non plus qu'à se rappeler, coïncidence pourtant singulière, comme quoi, un peu moins d'un an auparavant, certains tambours-majors de Zouave, spécimens superbes du type africain, étaient devenus 8 jours durant, pendant des manœuvres, la coqueluche des dames de la ville. « Cherche, ami, cherche !» disait la couchée calme et pâle sous ses rideaux. N'y eut-il pas des Cante Courlu qui, ruinés dans les rébellions, allèrent rétablir leur fortune aux grandes Indes ? Subitement, illuminé, le baron se frappa le front. « Moi qui oubliais, imbécile !» Quelques instants après, revenu de son grenier, il installait près du berceau, afin que la comparaison fût plus facile, 2 toiles poudreuses représentant, d'après les inscriptions lisibles encore sur leur ternie des cadres, la première, un cadet de Cantecourlu, en son temps gouverneur des îles sous le vent, et la seconde, une demoiselle de couleur avec qui, par amour, il avait contracté une mésalliance. La mésalliance m'ennuie bien un peu. En revanche, quel magnifique sujet pour un nouveau mémoire! Et vexé comme gentilhomme, mais réjoui comme savant, il baisait doctement attendri sa trop brune progéniture. Étonnez-vous après cela que, selon les dires de l'ermite, notre baron de Cantecourlu, le chef outrageusement surchargé, ait dû attendre 2 mois durant à la porte du purgatoire. Fin de la nouvelle de Paul Arène, Le Négrillon. 21 septembre 1896.